Et je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre de la Genèse, chapitre 4 et le verset 1er. Que nous dit le texte ? La parole de Dieu nous dit ceci, donc dans Genèse chapitre 4, verset 1er, « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. » Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Amen. Une histoire tragique. C'est ce qu'on appelle un homicide. Pendant quelques années, vous savez, moi, j'ai fait de la prison. Hein, tu es au courant que j'ai fait 5 ans de prison. Mais comme aumônier, bien sûr. Il y a des sœurs qui commençaient à cacher leurs sacs. Elles se sont dit, il va me braquer le sac. Hein? Non. Non, non. Moi, j'ai fait 5 ans de prison, mais comme aumônier principal de la maison d'arrêt de Grasse, et mon ministère a commencé alors que je visitais un jeune garçon de 20 ans qui, dans une soirée un peu alcoolisée, animée, a commencé à se disputer avec son frère et son frère aîné est sorti de la maison en claquant la porte. Mais avant qu'il ne sorte de la maison en claquant la porte, son jeune frère de 20 ans lui a dit, « Ainsi, si tu remets les pieds ici, je te tuerai. » Et ce qui s'est passé, c'est que son frère aîné, en claquant la porte, est descendu pour prendre sa voiture et s'en aller. Et ce qu'il avait oublié était de récupérer la clé de sa voiture. Et lorsqu'il est remonté pour récupérer la clé de sa voiture, il a sonné à la porte. Et son jeune frère a ouvert la porte et lui a mis une balle dans la tête à bout portant. Un homicide. Un homicide, c'est quelque chose de terrible. Comment un frère peut-il tuer son propre frère de sang-froid à bout portant avec une arme ? Et c'est ainsi que mon ministère dans cette maison d'arrêt a commencé, car j'ai suivi ce garçon pendant quelques années et nous avons pu lui témoigner de l'amour de Dieu. Et dans cette même maison d'arrêt, on avait un culte avec une centaine de détenus qui suivaient régulièrement nos cultes dans cette même maison d'arrêt. Nous sommes là dans une histoire terrible et je dirais ce matin que le cœur et le problème de cette histoire, c'est la jalousie. Oui ou non ? Dans cette église Agape, il n'y a pas de jalousie. C'est vrai ? Personne n'est jaloux. Personne n'envie le frère ou la sœur qui prospère, qui évolue, qui grandit dans la foi et qui développe le talent que Dieu lui a donné. Personne ne peut être jaloux. Parce que lorsqu'un frère ou une sœur réussit, on est dans la joie. Ici, dans l'église de Gap, quand un frère ou une sœur se réjouit, c'est toute la communauté qui se réjouis avec le frère ou avec la sœur, n'est-ce pas? Cependant, on se rend bien compte que même dans l'œuvre de Dieu, même dans le royaume de Dieu, même dans la parole de Dieu, je dirais que la base de tous les conflits, de toutes les disputes, de toutes les divisions, c'est la jalousie. Cependant, dans le ciel, nous qui sommes sur la terre, on vit dans l'injustice, on est injuste, mais dans le ciel, nous avons un Dieu qui est juste. Oui ou non? Mais comment se fait-il que ce Dieu qui est un Dieu juste va quelque part agréer l'offrande d'un homme au détriment d'un autre? Et là, c'est tout le mystère de l'exaucement et de la bénédiction qui va déferler sur un homme, Abel, et qui ne va pas déferler sur un autre qui s'appelle Caïn. Et pour nous, ça semble comme être une injustice quand on lit la parole de Dieu. Est-ce que Dieu fait une différence entre un petit agneau et l'offrande des fruits de la terre? Est-ce que Dieu va faire une différence entre celui ce matin qui a mis un billet de 500 euros dans la dîme et celui qui a mis un billet de 5 euros? Est-ce que Dieu va faire la différence? Est-ce que ce Dieu que nous prêchons, que nous annonçons, est un Dieu qui fait la différence entre celui qui aura mis un billet de 500 ou celle qui aura mis un billet de 5 euros? Dieu n'en a que faire des chiffres, excusez-moi. Dieu n'en a que faire des montants. Dieu est celui qui regarde au cœur. Et quand on lit bien la parole de Dieu, on se rend compte que le texte de la seconde nous traduit que Caïn va faire une offrande des fruits de la terre. Et Abel va en faire une des premiers-nés de son troupeau. Et j'aimerais vous dire ce matin, pour ne pas vous décevoir, que ce qui est écrit dans la traduction second n'est pas réellement exact. Et quand on va afficher la première diapo, on va se rendre compte que Caïn ne va pas faire une offrande des fruits de la terre, mais il va faire une offrande, ce qu'on dit, on exprime en hébreu, de « miketz yamim ». Il va offrir des fruits de fin de saison. Ce n'est pas la même chose. Parce que les fruits de fin de saison, ils sont rachitiques. C'est vrai. Et en plus, vous les payez cher. Si vous achetez des fruits qui ne sont pas de saison, vous allez les payer cher. Ils sont peu coûteux. Ils sont rachitiques. Ils sont plus petits. Ils manquent de soleil et ils manquent de sucre. Et Dieu en a en horreur des frères et des sœurs qui seraient capables de proposer à l'Église un salon troué avec des auréoles de pipi qu'on ne veut plus chez soi et on se dit que si ce n'est plus bon pour chez nous, ça sera bon pour l'Église. Moi, je n'apporte pas à Dieu une offrande qui ne me coûte pas. Et Dieu regarde au cœur et bien souvent, vous traiter Dieu d'une façon misérable. On a des comportements, des fois des attitudes qui font qu'on s'imagine que ce que nous ne voulons plus pour nous est bon pour Dieu. Mais qui est allé faire un tour dans la Jérusalem céleste déjà? Mes amis, qui est allé faire un tour dans la Jérusalem céleste? Moi, je connais une femme, Madame Zawi, la femme d'un pasteur. Elle s'est retrouvée aux portes de la Jérusalem céleste, alors qu'elle a été frappée d'une rupture d'anévrisme. Ensuite, Dieu l'a récupérée, l'a rattrapée et l'a renvoyée ici-bas. Et elle a simplement vu, d'après sa manière de nous témoigner, elle a eu une description de l'entrée de la Jérusalem céleste. Mais il n'y a pas un hôtel sur la surface de la terre, parmi les 10 plus beaux hôtels de la planète, qui n'arrive à la cheville de la Jérusalem céleste. Mon Dieu n'est pas celui qui se contentera des fruits de fin de saison. Et mon Dieu est celui qui va accepter une offrande, mais celle qui vient du cœur. Vous savez, en hébreu, il y a plusieurs mots pour le mot offrande, mais un mot en particulier qui revient en général, c'est le mot korban. Et on dit de Jésus, de Yeshua, qu'il est le korban tamim. Il est le sacrifice intègre, parfait. Et quand j'ai ce mot dans ma tête qui vient, le mot « korban », j'ai automatiquement le verbe « le'it karev », s'approcher. Il y a des frères et des sœurs aujourd'hui encore qui pensent qu'on peut s'approcher de Dieu simplement par le moyen des sacrifices. Et certains pensent qu'ils peuvent apaiser leur conscience en offrant quelque chose à Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas à vendre. Pas beaucoup d'amen, hein. C'est récurrent comme message un peu, non, hein? Dieu n'est pas à vendre. Dieu ne s'achète pas. Il vous a donné gratuitement. Il s'est donné gratuitement. Et le corban qui nous rappelle le sacrifice nous laisse toujours à penser que par le sacrifice, je peux m'approcher de Dieu. Il y a des paroles terribles dans cette histoire. Lorsque Dieu s'adresse à Caïn, il va lui dire « Où est ton frère ? Où est ton frère ? C'est qui ton frère ? C'est qui ta sœur ? Est-ce que c'est celui qui vient tous les dimanches ou en semaine dans la maison de Dieu ? Où est ton frère ? Où est ton prochain ? Quelle est notre responsabilité ? Vous savez, quand Dieu va poser cette question à Caïn, il va lui dire « Où est ton frère ?» Et mon frère, c'est en hébreu, c'est le « achi ». Quand on est dans la maison de Dieu, au culte, dans la communauté du samedi matin, et qu'on se croise, que je croise un frère, je lui fais « Shalom, achi ». Bonjour, mon frère. Qui a dit « Bonjour, mon frère » ce matin à un de ses voisins. Levez la main. Ah, vous avez dit frère, hein ? Mais vous savez que dans la notion de frère, on peut passer la diapo. On a dans le mot « ar » l'expression de « achariut ».« Achariut ».« Achariut », c'est la responsabilité. J'aimerais vous dire ce matin que nous avons tous la responsabilité, pas simplement que des frères et sœurs de la maison de Dieu, mais nous avons la responsabilité de ceux qui sont au dehors. C'est nos prochains, ils sont au dehors. Et ton prochain, c'est pas simplement que ton frère juif, ton compatriote juif, celui que tu côtoies au quotidien, non. Mais ton frère, c'est ton prochain, c'est celui qui est à l'extérieur. Celui que Dieu a créé, celui que Dieu aime par-dessus tout. C'est celui que Dieu aime par-dessus tout. Et dans la notion de « ar », frère, on a le mot « achariut ». Et dans la première lettre du mot « achariut », responsabilité, on a cette notion aussi de garantie. Nous sommes responsables, mais en même temps, nous devons apporter à Dieu des garanties. Est-ce que vous pouvez apporter à Dieu des garanties ce matin? Lorsque vous achetez de l'électroménager, vous demandez votre coupon de garantie. C'est vrai ou non? Et si au bout de 12 mois, l'article est défaillant, vous allez le ramener et vous bénéficiez de votre garantie. Dans ma responsabilité, celle d'enfant de Dieu, celle de responsable pour propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu, je dois apporter à Dieu des garanties. Oui ou non? Donc, dans la notion de achariut, si ça apparaît sur la vignette, ça sera que mieux, mais même si ça n'arrive pas, on a la première lettre du mot responsabilité, garantie, c'est le mot aleph, qui amène la notion de ani, je. En hébreu, je se dit ani. Répétez avec moi, ani. Est-ce qu'il y a une ani dans la salle? Il n'y en a pas? Il n'y a pas de ani dans la salle? Lève ta main, ani. Elle est là? Non, elle n'est pas là aujourd'hui. Hein. Voilà, donc Annie, c'est je. Le premier responsable, c'est moi. Vous savez, on a toujours le réflexe de pouvoir mettre en exergue ce qui ne va pas dans la maison de Dieu. Et le premier responsable de ce qui ne va pas dans la maison de Dieu, c'est Stéphane. Et oui, il faut bien une tête de Turc, excusez-moi l'expression. N'en plaise à M. Erdogan. Hein? Mais cependant, il faut toujours une tête de Turc, oui ou non? Il faut toujours un responsable. Et moi, j'aimerais vous dire que si dans la maison de Dieu, il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, tu en es le premier responsable. Nous sommes tous responsables. Nous sommes responsables de ce qui se passe dans la maison de Dieu. Et dans cette notion de responsabilité, à Achariout, il y a la notion de Ani, je, moi. Et il y a cette notion de Har, le frère, je suis responsable de mon frère. Mais je suis aussi responsable de ce qu'on va étymologiquement amener de Acher, l'autre. L'autre. C'est qui l'autre? L'autre, c'est mon prochain. L'autre, c'est celui qui ne pense pas comme moi. L'autre, c'est celui qui ne mange pas comme moi. L'autre, c'est celui qui ne s'habille pas comme moi. L'autre, c'est celui qui, dans la louange et l'adoration dans la maison de Dieu, ne se comporte pas comme moi. Vous savez, moi, j'ai une église d'Africains, je ne peux pas leur demander à la louange de rester comme des santons d'Aubagne. Des santibelli de la crèche. Vous savez ce que c'est? Des gens qui, dans la présence de Dieu, restent fixes. Soi-disant que c'est la culture française qui veut ça. Mais moi, quand je vois les Français dans les stades, je me dis que ça, c'est du mensonge. Hein. Comment dire que les Français sont statiques dans la présence de Dieu, etc., alors que dans les stades, il fait moins 20, des fois, moins 15, moins 10, ils sont torse nus. Et ils dansent, et ils crient, ils hurlent. Comment moi, qui suis un toubabou africain, parce que je suis aussi ivoirien de nationalité, et j'en suis fier, juif, israélien, ivoirien et français, trois passeports, franco-ivoiro-israélien, Shem, Ham et Yafet, Sem, Cham et Japhet. Comment moi j'arrive, je suis blanc, et j'ai une communauté d'Africains, je vais leur dire maintenant vous allez faire la louange, et vous allez chanter comme moi je vous le dis, et vous allez vivre le culte comme moi je vous le dis. C'est fini, vous apportez plus l'offrande en dansant, là dans le panier, vous allez rester sur votre chaise, et on va faire passer le panier. Non. Alors, c'est à nous d'avoir du respect pour le prochain, l'autre. Et si on veut l'approcher, il faut aussi essayer de connaître sa culture, de la comprendre, voire même de la vivre. Moi, je mange des chenilles séchées. Et il y en a un qui m'a dit, je veux pasteur, il étudiait chez nous, je veux être missionnaire en Afrique. J'aimerais aller au Congo, c'est un pays extraordinaire. J'ai dit, ben, tu viens t'asseoir à ma table. Et là, on m'a servi une belle louche de chenilles séchées, avec des vitamines. Et je lui ai dit, tu vas manger binzo. Binzo, tu vas manger binzo. Alors le gars, il me dit, attends, comment on fait? Il prend une fourchette, il coupe juste un demi-centimètre de binzo et là, il le met dans la bouche et il change de tête, il est prêt à partir dans les toilettes pour aller vomir. Moi, je mange en Afrique sur la natte, je mange binzo, je mange des larves, je mange la nourriture locale, je vis avec les locaux et j'apprends à connaître leur culture afin de mieux les atteindre dans la propagation du message de l'Évangile. C'est qui l'autre? Acher, c'est qui l'autre? C'est qui l'autre? On est en vase clos dans nos églises, de plus en plus. On vit des vases clos, on s'enferme, on est entre nous, on s'encourage entre nous, on vit entre nous, on a peur des autres, de ceux qui ne parlent pas comme nous, de ceux qui ne pensent pas comme nous. On veut leur imposer notre façon de voir les choses. Et ça, c'est tout à fait le contraire de ce que quelqu'un qui est appelé à la mission et à la propagation de l'Évangile doit faire. Moi, je suis arrivé en Israël, j'avais 8 personnes au culte, c'était 8 réformés, ils étaient habitués à un culte réformé, et en fait, c'était le pasteur qui leur avait imposé la liturgie, la forme de culte. Et en plus, on voulait se conformer à ce qui se passait en Europe, donc on faisait le culte le dimanche, soit un lundi en Israël où les gens travaillaient. Nous, quand on est arrivé, on a arrêté de faire le culte le dimanche. On l'a fait le samedi et on n'est pas adventiste. On l'a fait le samedi et là, on avait plus de population dans le culte. Et on s'est fait à ces bien-aimés qui nous ont accueillis en Israël. On avait 8 Africains. Et au bout de 2 mois, on avait 80 Africains, 100 Africains. Et dans la même soirée, on a eu 47 baptêmes du Saint-Esprit. Et ainsi, avec le peuple africain, nous avons commencé l'œuvre de Dieu en milieu israélien. Et là, il y a une communauté israélienne qui était pratiquement à l'apoplexie, en train de mourir, elle est repartie. Et là, une faculté de théologie a été plantée en plein cœur de Jérusalem, au milieu des sites les plus importants, et qui accueille plus de 40 étudiants chaque année, grâce au peuple africain avec lequel nous avons pu faire l'œuvre de Dieu, des nuits de prière, des jeûnes, de l'intercession. Qui est le Acher, ou les Acher, ou Acharit, après? Après, parce que dans la notion de Achariut, responsabilité, j'ai le mot Ani, je, moi, j'ai le mot Ar, le frère, j'ai le mot Acher, l'autre, mais j'ai les Acher, ou Acharit, après. Je suis responsable de ce qui se passe aujourd'hui, mais je suis responsable de ce qui va se passer après, de ce qui va se passer demain. L'Église a une influence pour aujourd'hui et une influence pour demain. Nous avons notre responsabilité, nous avons notre part de responsabilité. Et si nous voulons la bénédiction de Dieu, il faut se rappeler que nous devons lui offrir un sacrifice, non pas qui est un sacrifice rituel ou habituel, mais nous devons apporter à Dieu un sacrifice qui vienne du plus profond de notre cœur. Amen. Un sacrifice spontané. Le sacrifice spontané de cette femme qui apportera que 5 euros alors qu'elle a que 400 euros de retraite vaut bien plus que un don de, ou une offrande ou une dîme ou une, je ne sais, de 500 euros de quelqu'un qui en gagne 4-5 000 par mois et qui ne lui coûtera rien. Ça ne le dérangera pas de donner un beau billet violet. Vous n'en voyez pas souvent, hein? Vous n'en voyez pas souvent dans la corbeille? Non? Ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver! Où est ton frère? C'est notre responsabilité. Nous avons dans la parole de Dieu des choses incroyables qui nous rappellent que dans le texte de la version massorétique du texte hébreu et dans la version de la Septante, la traduction grecque du texte hébreu, eh bien nous voyons que dans le texte massorétique, le mot utilisé pour le regard que Dieu porta sur l'offrande, c'est le mot, en hébreu, le mot « sha'a », qui est affirmé dans le cas d'Abel et qui est nié dans le cas de Caïn. Ce mot, chez les Juifs, « sha'a », exprime le regard de la foi. C'est important. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, il faut avoir le regard de la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Traduisez-moi le mot foi. Qui peut me dire en hébreu comment on dit foi? Le mot hébreu du mot foi, émouna, qui vient de l'éamin, croire, du mot amen. Quand on liait un contrat autrefois dans le monde juif, il n'y avait pas d'acte notarié, il n'y avait pas d'écrit, pas de signature, mais on mettait sa main sur le cœur et on disait « Amen ». Et mes amis, chaque fois que vous dites « Amen », vous êtes liés par vos paroles. Hein. Parce que « Amen », c'est « Oui ». « Ken », »,« Ken » en hébreu, c'est « Amen », c'est la même chose, ça veut dire « Oui ». Ça vient de « Emet », vérité, « Emouna », c'est « Emet », vérité, « Aleph Tav », « Alpha Omega », même, le merkaz, le centre, Aleph, Mem, Tav, c'est l'alpha, l'oméga, et le merkaz, le même, c'est le merkaz, c'est le centre. Jésus est le centre de la vérité. Il est l'Aleph et le Tav. Jésus est le cœur, le centre de notre foi. Alléluia! Amen! Et nous croyons en cette parole extraordinaire de ce que ce mot « Shah » exprime le regard de la foi. Et dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons pour le royaume de Dieu, il faut avoir le regard de la foi. Il ne faut pas calculer avec sa tête, mais il faut vivre avec son cœur et s'exprimer devant notre Dieu. Quant au texte grec de la Septante, le mot « sha'a » est traduit de deux façons, bien sûr, dans le grec. « Sha'a » est « phorao », qui veut dire « agréé », « agréé » pour Abel, et « prosecho », qui signifie « prêter attention ». Et ça nous rappelle que Dieu ne prêta pas attention au sacrifice de Caïn. Parce que Caïn va lui amener ce qui lui restait dans son placard. ceux qui avaient vieilli, ceux qui étaient rachitiques, ceux qui n'avaient pas de soleil, ceux qui ne venaient pas de la lumière, ceux qui n'étaient pas sucrés. Quand on vous donne un mets et que vous êtes dans un restaurant et vous savez que vous allez payer l'addition en sortant, quand on vous donne un mets, on vous pose un mets sur la table que vous êtes en train de déguster qui n'a pas de goût, vous réagissez automatiquement. C'est vrai ? Est-ce que vous pensez que Dieu est capable d'agréer quelque chose qui n'a pas de goût ? Quelque chose qui n'est pas bon ? Quelque chose que vous ne voulez pas pour vous ? Que vous ne voulez pas pour vos propres enfants, vous voulez le donner à Dieu ? Dieu n'en veut pas ! C'est vrai ou non ? Lorsque le fauteuil est arrivé dans notre église, avec des trous et des auréoles de pipi, excusez-moi d'être cru ce matin, quand la famille qui a amené le fauteuil est partie, j'ai appelé 4 gaillards de la faculté, je leur ai dit « Prenez le fauteuil à la décharge. Si tu veux offrir un fauteuil pour l'église, va l'acheter. Je peux te donner des adresses pour que tu puisses avoir peut-être une bonne réduction, mais va acheter quelque chose de beau pour Dieu. Quand tu veux donner quelque chose à Dieu, donne-lui quelque chose de beau, donne-lui quelque chose de bon, quelque chose de sucré. » Quelque chose de renouvelé. Dans une église où j'étais pasteur pendant 12 mois, je pouvais vous dire, quand le frère démarrait sa prière, je pouvais la faire avec lui. Le dimanche matin, quand il a porté sa louange à Dieu, c'était une prière rabâchée, apprise par cœur. C'est quelque chose, pour moi, en tant que juif, né de nouveau, d'intolérable. Parce que tous les matins, moi, j'étais à la synagogue à 4 heures du matin, shacharit. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. À Shacharit, je répétais la même prière pendant des années. À Mincha, l'après-midi, je répétais la même prière, la prière de 15 heures. À Arvit, Erev, le soir, je répétais encore la même prière. Mes amis, quand on apporte à Dieu quelque chose qui n'est pas renouvelé, dans son ciel de gloire, je peux l'imaginer en train de faire ça. Lorsque le monsieur priait, il démarrait sa louange, je pouvais la faire avec lui. C'était une prière rabâchée. On est le mouvement de Pentecôte, mais on est infiltré par des gens statiques, des gens religieux, des gens qui, finalement, sont contre tout, s'insurgent contre tout, s'insurgent sur la manière dont certains peuvent mener le culte. Moi, je connais des blancs qui quittent des églises parce qu'il y a trop de noirs. Vous me croyez ou non ? Comment vous allez faire dans le ciel ? Parce que des noirs, il y en aura beaucoup dans le ciel. Peut-être des juifs un peu moins. Mais je souhaite qu'on soit nombreux. Déjà, il y en a 2. On sera tous les 2. On se fera une petite kémia. On se boira une petite anisette. On se fera un petit shabbat ensemble. Hein. Kabbalah de shabbat avec la challah. Hein ? Comment on peut en arriver là ? Dans le ciel, ça sera la diversité, ça sera la mosaïque. Mosaïque de peuples, d'hommes et de femmes, de toute langue, de toute race. Je ne suis pas de ceux qui voulons apporter une certaine façon de voir les choses, mais on veut laisser le Saint-Esprit conduire nos moments. Que même ta louange, ta prière de la semaine, quand tu vas venir intercéder, prier dans la maison de Dieu, qu'elle soit inspirée et sous l'onction du Saint-Esprit, que pendant même la réunion de prière, Dieu t'inspire de faire des choses, te donne des clés, même des sujets. Un jour, ma femme, elle était dans la cuisine, elle a vu une puissance des ténèbres passer, elle a arrêté son ouvrage et elle s'est mise à prier. Pendant qu'elle priait, moi, je passais entre 2 camions à Ashdod. J'allais faire une réunion d'études bibliques, je suis passé entre 2 camions. La deuxième voiture qui était avec moi, elle a eu moins de chance ou moins de grâce que moi, parce que je ne crois pas à la chance, mais je crois que Dieu veille sur son peuple. Et moi, j'ai fermé les yeux, j'ai accéléré, je suis passé entre les 2 camions. Ça n'a pas été le cas de la deuxième voiture qui a été écrabouillée. Au même instant où ma femme, elle a vu une puissance de mort, une puissance de ténèbres passer dans la maison, elle s'est mise à intercéder. Et son intercession m'a valu que ce matin, je puisse parler encore devant vous. Des prières inspirées, alléluia ! Des louanges inspirées, des louanges de reconnaissance, des adorations inspirées. Au chapitre 4, le seul mot pour décrire l'offrande n'est pas le mot « korban », mais dans le texte hébreu, c'est le mot « mincha ». Mincha, qui n'est pas le mot habituel pour exprimer l'offrande, je vous l'ai dit, c'est le mot korban.
qui désigne le pardon, l'expiation, l'inauguration, la purification, le repos. Le mot mincha désigne une offrande gratuite, libre, faite exclusivement par amour, une offrande spontanée. C'était dans le but de rendre grâce dans la louange et l'adoration. Dieu veut des louanges spontanées, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas de prières rabâchées. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas des traditionalistes du mouvement de Pentecôte, mais nous sommes le mouvement de Pentecôte, un mouvement régénéré. Quand on chante, on peut même chanter en langue. Qui a déjà chanté en langue ici? Levez la main ceux qui ont déjà chanté en langue. Il faut chanter en langue. Il faut louer en langue. Même si on ne comprend pas tout, Dieu sait tout. Et Dieu inspire toutes choses. On est le mouvement de la Pentecôte, on est des pentecôtistes, on veut vivre sous l'onction et la direction du Saint-Esprit, on veut avoir le courage de se laisser diriger, conduire et vivre des choses extraordinaires. Nous ne sommes pas des gens qui, comme Gédéon, dira « mais où sont les miracles de nos pères ?» Moi je crois aux miracles d'aujourd'hui. Je crois que Dieu, c'est encore le Dieu des miracles. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu, c'est encore le Dieu des miracles? Il n'y a pas longtemps, moi, j'ai vu un cancer séché avec des papiers à l'appui, des preuves, comme quoi le cancer avait été séché. Il y a un homme qui est venu il y a quelques mois en Israël et il était malade, il était dans une situation avec des examens catastrophiques et il s'est dit dans les derniers moments qui me restent peut-être à vivre, je vais en Israël servir Dieu, je vais donner tout ce qui me reste. Il est venu là et il nous a raconté son histoire. Et un samedi matin, pas un dimanche, hein, un samedi matin, même si on n'est pas adventiste. Parce que quand des gens expriment leur foi sur la révélation d'une femme, qui a vu une auréole sur un commandement, et quand on base toute notre foi sur la révélation d'un homme et pas de la parole de Dieu, on est secte. Hein? Ça vient cela. Mais croyant à la parole de Dieu, un samedi matin, à cause du contexte que nous vivons en Israël, il est venu à l'imposition des mains, on lui a fait l'onction d'huile, et quand il est reparti de son engagement, de son volontariat, et qu'il est reparti en France faire des examens, les médecins ne comprenaient pas. Mais dans une église de Pentecôte, il a expérimenté la guérison. Alléluia! Dieu ne change pas. Il est le même. Amen. Malheureusement, dans certains milieux pentecôtistes, on ne croit plus qu'à certains dons. Combien on a de dons? Combien? Combien on a de dons? Est-ce que vous les avez, les neuf, là? Est-ce que vous les vivez, les neuf? Est-ce que vous voulez les vivre? Demandez. Il faut demander. Si vous demandez, il vous les donne. Oui ou non? Moi, dans une église, ça m'arrive pas souvent, mais j'étais là le dimanche matin et j'ai dit au quatrième rang, quatrième chaise à ma gauche, telle personne est dans telle situation, à l'instant même, Dieu fait telle chose. La jeune fille, elle s'est levée, elle a crié, et effectivement, elle était à ma gauche, au quatrième rang, la quatrième chaise sur ma gauche, et elle était vraiment la personne concernée, Dieu l'a délivrée. Et à la réunion d'après, le pasteur, il essayait d'empêcher la manifestation. Il avait un ministère pour refermer les robinets. Il y en a comme ça. Est-ce qu'on est le mouvement de Pentecôte, oui ou non? Il y a une histoire ici, non? Pourquoi on se fait trois bises? Pourquoi on se fait trois bises? On croit en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, oui ou non? En Belgique, ils n'en font qu'une, ils sont Jésus seul. On est le mouvement de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et des fois, on prend Dieu le Père et Dieu le Fils et on dit au Saint-Esprit, reste dans la pouponnière. C'est vrai ou non? On veut la manifestation de ce Dieu triunitaire. On veut la manifestation du Saint-Esprit. On veut les dons spirituels. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à avoir des comportements spontanés dans la maison de Dieu, dans la manière de rendre grâce. Le texte grec, lui, traduit le mot « mincha » par deux mots différents, le mot « tousia » pour Caïn et le mot « dorion » pour Abel. « Tousia » désigne une offrande sans importance, ordinaire, banale, Une offrande dont on garde une partie pour soi. C'est ça que ça veut dire. Et Dorion, ça rejoint le mot mincha qui nous parle d'expiation, de spontanéité, de liberté, d'action de grâce et de louange. C'est comme ça que je vais être dans la maison de Dieu ce matin. Alléluia. Est-ce que c'est comme ça que tu veux être dans la maison de Dieu? Souviens-toi du premier jour où tu as rencontré le Seigneur, où tu as été baptisé du Saint-Esprit. Comment tu étais? Tu faisais peur même. Vous savez, il y a quelque temps, j'étais dans la première phase où l'action missionnaire des Assemblées de Dieu de France était en difficulté. C'était il y a quelques années. Et j'avais dans mon cœur ce désir de faire des chants en hébreu français. Je fais des chants en hébreu français, je les traduis. Je fais une dizaine de chants en hébreu français, puis je me dis, non, tu as grandi dans ce milieu avec tes oncles, tu as grandi dans la synagogue, tu chantais dans la synagogue, tu organisais les fêtes pour les bar mitzvot, les communions, les mariages, tu chantais là, tu chantais même dans les cabarets à 13 ans, 14 ans, tu as vu des choses qu'un adolescent n'aurait jamais dû voir. Et j'ai dit, ça, je n'en veux plus, je ne chanterai plus comme ça, je ne ferai plus ces choses-là. Et j'ai pris mon projet, je l'ai mis dans un tiroir de mon bureau, au dernier étage de la maison. Et un mardi soir, à la réunion de prière, il y a un petit Congolais, Yvon. Il se lève comme un fou. On était en train de prier calmement et d'un coup, il se lève. J'avais l'impression qu'il était en transe. Comme dans le prophète Osée, l'homme de l'esprit a le délire. Il était comme un fou. Il se lève, il était dans une espèce de transe et il commence à dire des choses. Il commence à dire, les gens qui t'ont envoyé dans ce pays pour me servir vont connaître un temps comme à l'époque de Joseph en Égypte. Et ils vont connaître les vaches maigres où il n'y aura plus d'argent, plus de moyens. Et il y a quelques mois, tant de mois de cela, dans le tiroir de ton bureau, tu as mis un projet. Et c'est ce projet que moi, j'ai mis sur ton cœur pour que tu puisses le mettre en pratique, le mettre en marche. Et ce projet te servira à traverser les années de vaches maigres. Et les gens de l'église voulaient l'arrêter. Il était comme un fou. Yvon Alula. Il était comme un fou. J'ai dit, ne le touchez pas. Je me suis mis devant lui. Laissez-le. Laissez-le. Il y avait une sœur qui voulait l'arrêter, lui crier dessus parce qu'il était comme un fou. L'homme de l'esprit a le délire, osé. Et là, il a prophétisé. J'ai sauté dans ma voiture. Il n'y avait pas de radar, heureusement. Je suis arrivé chez moi, j'ai monté les escaliers, les trois escaliers en courant. J'ai pris tous les tiroirs de mon bureau, je les ai mis par terre. Et j'ai retrouvé mon enveloppe où il y avait 10 chants traduits en hébreu et en français, adaptés avec la musique. J'ai sorti un disque, j'en ai vendu des milliers. Alors que même le responsable de l'action missionnaire, je voulais l'impliquer dans le projet, il m'avait dit que les solutions, on les trouvait à genoux dans la prière, c'est vrai. Mais il me dit, quand tu auras vendu 300 CD, tu viendras me parler. Et un jour, je le croise à la convention, j'ai dit 300 fois 10. Ça faisait 10 jours que le CD était sorti. 300 fois 10, il me dit 3000. J'ai dit 3000 CD. Et les choses se sont enchaînées, c'était 25 000 CD. Et ça a payé le champ Israël pendant des mois, ou même pendant 3 mois, je suis resté sans toucher mon salaire. Dieu est tout puissant. Lorsque Dieu envoie, il pourvoit. Quand il y a mission, il y a provision. Moi, je ne crains rien, je ne crains point. Je crois en celui qui nous a envoyés et je crois en celui qui pourvoit. Mais seulement, il faut l'écouter, il faut le laisser parler. Il faut laisser l'action puissante du Saint-Esprit se manifester au milieu de nous. Alléluia. Amen. Ces enfants qui prophétisaient à la mamelle, ces camisards dont on leur mettait des balles, les chemises étaient trouées dans le corps, il n'y avait aucune souffrance. C'était des hommes et des femmes de l'Esprit. Et nous sommes le mouvement de l'esprit. Et le mouvement de l'esprit, en France, il n'est pas né au début du siècle. Mais il est né il y a quelques centaines d'années déjà. Il y en avait déjà qui prophétisaient. Il y en avait déjà qui déambulaient dans les villages, de village en village, et qui annonçaient le message de l'Évangile. Des Cévenols, des Huguenots, des Vaudois qui sont morts pour le nom de Jésus. Alléluia ! Des gens qui ont donné leur vie et qui l'ont donné au détriment de leur entourage qui vivait aussi déjà sous l'onction de l'Esprit. Nous sommes le peuple de l'Esprit, nous sommes le peuple de la Pentecôte et nous voulons vivre la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous. Que Dieu nous inspire, que Dieu nous dirige. Et si Dieu veut nous bénir et peut nous bénir ce matin, il faut que, au préalable, nous, on lui offre ce qu'on a de meilleur. Si Caïn n'a pas été exaucé au détriment d'Abel, c'est parce qu'il a offert des choses qu'il ne voulait pas pour lui. Des choses qui étaient dans un placard ou au fond d'une grotte et qui étaient devenues rachitiques, secs, qui n'avaient plus rien à apporter. Ce matin, nous voulons apporter à Dieu ce que nous avons de meilleur à lui apporter. À lui seul, ce matin, soit toute la gloire, la puissance et le règne. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé au-dessus de tout nom, dans le nom de Jésus.